La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis quelques années, le philosophe et historien de l'art Georges Didier Huberman a entamé une série qu'il a choisi de titrer « L'œil de l'histoire ». Un tel titre, tout autant que les questions abordées dans les quatre premiers volumes de cette série, autour de figures comme Bertolt Brecht ou Abby Warburg, ou de questions comme les images ou leur absence des camps d'extermination, ne pouvaient que le conduire à rencontrer un moment un certain Jean-Luc Godard. Deuxième clin d'œil au Festival de Cannes, après une émission la semaine dernière avec le sociologue Olivier Alexandre sur la politique publique des auteurs, le regard porté aujourd'hui par Georges Didier Huberman sur l'auteur par excellence, Jean-Luc Cinéma Godard. Vous interrogiez, écrivez-vous, Georges Didier Huberman, en 1959, le cinéma d'Alain Resnais à travers une formule remarquable dont Jacques Rivette aura fait usage en 1961 dans sa fameuse critique du travelling de Capot qui disait « Les travelling sont affaires de morale ». N'est-il pas légitime aujourd'hui de vous adresser une question du même genre, notamment à propos de vos montages duels où se fixent, pour ainsi dire, les places déterminées de tel champ en face de tel contre-champ ? Je paraphraserai donc votre propre formule, les contre-champs sont affaires d'éthique. Lorsque vous divisez le monde des images en deux et que votre pratique du champ contre-champ en arrive alors à donner l'impression que le monde est structuré comme un court de tennis, je m'interroge sur le sens de l'histoire que votre montage appelle. Je veux dire par là que l'histoire telle que vous la cherchez par ailleurs, l'historicité complexe qui justifie si bien dans vos histoires le terme d'archéologie, cette histoire-là n'est pas en effet structurée comme une partie de tennis, une partie où deux parties s'affronteraient simplement dans une dramaturgie toute balisée, quelle que soit la tactique ou la stratégie mise en œuvre, par la séquence obligatoire 15, 30, 40, avantage, jeu. Georges Didier Huberman, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Vous êtes bienvenu. Vous êtes donc l'auteur de Passé cité par JLG, volume 5 de L'œil de l'histoire, et je viens de lire un extrait des pages 98-99 du livre, soit pile le milieu de ce livre, qui est le moment que vous avez choisi pour vous adresser directement à Jean-Luc Godard en lui posant une question centrale pour cette réflexion, en partant de l'une des phrases, et il y en a beaucoup, de Jean-Luc Godard célèbre, « Les travelling sont affaires de morale ».
Je me suis pas aperçu que c'était au milieu du livre que tout à coup je me mets à m'adresser à lui. En fait, quand on travaille sur un auteur, sur un artiste, on a tendance à... Enfin, moi, j'ai une tendance au mimétisme. Donc, Godard, c'est quelqu'un qui se plaint toujours de ne pas avoir d'interlocuteur. Deuxièmement, il en a beaucoup. Et troisièmement, il a pratiqué cette chose très jolie qui est la lettre A. Lettre à Freddy Buage, lettre à... Donc tout à coup, mon propos, en effet, comme par un désir de dialogue, pas de polémique justement. La polémique, c'est un contre un. La polémique, c'est en fait, c'est très narcissique, la polémique. C'est deux narcissismes qui s'opposent. Bon, moi, ça ne me convient pas exactement. En réalité, si on essaie d'inventer un dialogue où on met déjà un troisième ou beaucoup d'autres... Alors, le troisième ici, c'est Resnais, par exemple. Voilà, ça devient peut-être plus intéressant, je ne sais pas.
Je disais, Georges Didier Huberman, qu'au fond, il y a comme une évidence à trouver sur le parcours de l'œil de l'histoire, le nom de Jean-Luc Godard. Est-ce que c'était prémédité ?
Non, ce n'était pas prémédité, sauf que je peux dire que toute la série que j'ai intitulée « L'œil de l'histoire », donc il y a jusqu'à présent ces 5 volumes, il y en a un 6e, c'est une série ouverte, hein, je ne sais pas du tout où ça va.
Démarré en 2007.
Une série ouverte où, en fait, bon, l'œil de l'histoire, la question de savoir à quoi les images nous servent dans l'histoire, c'est une question, je pense, qui est cruciale. Oui, elle est passée par Brecht, par quelqu'un que j'aime beaucoup, Haroun Farocki, qui m'a aussi permis de mieux voir Godard d'une certaine façon. Évidemment, des auteurs fondamentaux pour moi que sont Benjamin ou Abby Warburg. Mais toute cette série est comme la conséquence peut-être d'un livre qui les a précédés, qui était ce livre intitulé « Image malgré tout », dans lequel en fait, au fond, je prolongeais une discussion qui avait eu lieu précédemment entre Godard et Lanzmann. Dans cette histoire, je jouais le rôle un peu du godardien. Enfin, je défendais Godard, je défendais le lyrisme, l'intelligence, la polysémie, la poésie de ses montages, y compris lorsqu'il traite de sujets aussi difficiles que les camps, etc. Donc voilà, j'étais plutôt le godardien. D'ailleurs, l'exergue de ce livre, c'était une phrase de Godard. Mais toute cette série qui a suivi m'a fait regarder les choses d'un peu plus près. Alors, quand on regarde les choses d'un peu plus près, c'est toujours un peu plus compliqué. On ne peut pas demander d'ailleurs à qui que ce soit de d'être toujours à la hauteur de la rigueur qu'il promeut ou qu'il promet. Et donc, en effet, dans la page que vous citez, tout à coup, le vouvoiement arrive au moment où je lui dis « Mais attendez-vous, vous êtes un très grand monteur, j'ai consacré beaucoup de pages à sa philosophie, en quelque sorte, et sa pratique du montage. Mais je me dis, voilà, il y a quelques fois, vous montez d'une façon ou d'une autre. » Et la question de départ, c'était, est-ce qu'on divise ? Quand on monte, on divise. Quand on monte, on coupe. C'était avec des ciseaux autrefois. Maintenant, c'est du copier-coller, mais ça revient au même.
Il y a des alias de ciseaux sur les écrans.
Oui, absolument, c'est juste. Donc, monter, c'est d'abord couper. Et ma question à Godard, à ce moment-là, c'est, mais monsieur Godard, comment divisez-vous ? Est-ce que vous divisez en deux ou est-ce que vous divisez en plusieurs ? C'est déjà une première question. Il se trouve que moi, j'aime quand il divise en plusieurs. Ça me plaît. Je viens de dire à l'instant, une polémique, c'est un contre un. Et donc, si on divise en plusieurs, on instaure quelque chose comme un nous, quelque chose de plus large. Mais il lui arrive très souvent de diviser en deux. Voilà. Donc là, dans ce livre en particulier, enfin, c'est un livre... Tous les chapitres, en fait, je regarde là la table des matières, il y a toujours le mot « deux » pratiquement. C'est toujours sur la question de la division deux lièvres à la fois, d'une pierre deux coups à double tranchant. Quand j'intitule un chapitre « à couteau tiré », mais on sent bien que c'est un contre un autre.
Et vous précisez la politique
les deux tableaux,
divisée.
Voilà, ouais. voilà. Et je pars d'un magnifique détournement par Godard de la fameuse expression de deux choses l'une, hein, et lui il dit de l'une deux choses. Alors c'est un débat avec lui, ça veut dire une chose faite d'admiration et de critique, les deux.
Alors pour en arriver à vous adresser directement à lui, à lui poser cette question, au cœur de cette réflexion, il y a d'abord... un travail que vous menez sur le rapport de Godard à l'histoire, et évidemment aux images et au cinéma dans ce dispositif, et qui passe par la citation. Vous dites, Godard convoque ou cite le passé à comparaître, en endossant tour à tour différents rôles de la justice d'ailleurs. Celui de l'instruction, du procureur, du magistrat, de l'avocat, enfin de la victime, à peu près tous.
Oui, il assume tout. Mais du coup, il disperse tout. C'est-à-dire, on ne sait plus tellement où il est quelquefois. Mais pardon, je vous ai coupé là dans votre question.
Non, je voulais vous donner l'occasion de nous expliquer comment fait Godard avec le passé, du cinéma, pour produire le cinéma de demain, parce que c'est toujours, au fond, en dépit du regard vers le passé, l'enjeu est celui des formes du futur.
Oui.
Comment Godard procède, comment il s'inscrit dans cette histoire particulière et comment il a cette capacité qui est au centre de son œuvre depuis toujours, finalement, de poser la question de l'histoire avec un grand H, oui, en liaison avec celle de l'histoire du cinéma. Les deux sont inséparables chez lui.
Mais c'est ça qui est passionnant, hein. C'est ça qui fait de lui, en particulier à travers sans doute l'œuvre autour de laquelle je tourne le plus, c'est-à-dire Histoire du cinéma, c'est un chef-d'œuvre. Alors, en effet, c'est la question posée de qu'est-ce que le cinéma a à faire avec l'histoire, comment le cinéma juge l'histoire, ou est jugé par l'histoire, etc. etc. Je ne sais pas par où, d'où partir, mais peut-être simplement, je me souviens, il y avait un très beau livre de Giacomo sur les histoires du cinéma, qui s'appelait Amnésie, très beau livre chez POL, je crois. Et Giacomo, à un moment donné, il insiste pour dire « Mais regardez bien les documents dont Godard use. Il ne les maltraite jamais. Il les monte, ça c'est sûr.
Il les cadre.
Il les cadre. Il y a des surimpressions, il y a tout ce que vous voudrez. Mais le document lui-même, il y touche pas. C'est-à-dire que déjà, on peut dire que Godard, il est beaucoup plus, attentif à ce qu'on pourrait appeler le témoignage, là. Que, par exemple, un documentariste de télé qui aujourd'hui recoloriserait des documents qui sont en noir et blanc de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Chose contre laquelle moi je me suis une fois exprimé assez violemment. Je veux dire, on ne peut pas demander à... C'est comme si vous demandiez à, je sais pas, à un survivant... des camps, il dit que par exemple c'était lourd et puis vous transformez sa phrase et vous dites bah, pour que les gens comprennent on va dire relou par exemple. Vous voyez, ça c'est pas possible. Et coloriser un document des années 30, c'est exactement
une opération
pareil.
Du même type.
Ah, pour moi c'est exactement pareil. À part ça, Godard, il assume complètement une espèce de liberté. Ah oui, bah, ça c'est un grand sujet. La liberté de l'artiste, et c'est le sujet du livre. Hein. Le sujet du livre, c'est la liberté et l'autorité de l'artiste. Quel est le genre d'autorité qu'un artiste comme Godard se construit en réalité? Mais en effet, il construit une interprétation du passé, hein, par biais de montage. Il a cette liberté. Il a cette liberté. Là où je pose des questions, c'est... Où situer la question de la vérité? Il y a, si vous voulez, vous me permettez de partir d'un peu plus haut. Pardonnez-moi, hein, je vais d'une idée à l'autre comme ça. Je crois que le dernier mot de ce livre, si je me souviens bien, c'est « Poser de telles questions n'enlève rien à son art, qui est immense, seulement à son art de faire autorité dans le discours artiste. » Bon, aujourd'hui, les artistes, c'est les gens libres. C'est la figure même de la liberté. Quel genre de liberté? Vraiment, toute la question est là. Il y avait des grands débats, par exemple, entre Pasolini et Andy Warhol. C'était dans les années 60. Qu'est-ce que tu fais de ta liberté, toi, qui es la figure de la liberté? Quelqu'un qui incarne la figure de la liberté, c'est-à-dire le grand artiste, il est, à mon avis, hein, il est à la pointe du problème éthique. Il n'a pas un privilège de liberté. Il a un très grand poids, en fait.
Une responsabilité.
Une responsabilité considérable. Donc, le livre que j'ai écrit concerne, grosso modo, le genre de responsabilité que Godard prend ou ne prend pas avec cette liberté. Et avant de venir, là, je me disais, oh là là, qu'est-ce que je vais dire sur Godard? J'ai aucune idée. J'ai ouvert au hasard comme ça ses écrits et je suis tombé sur son discours de réception du prix Adorno. Il est un des rares francophones à avoir eu le prix Adorno en 1995. Et c'est très intéressant, cette espèce de liberté, mais en même temps de responsabilité, c'est typique. Alors, premièrement, il reçoit le prix Adorno et ici, il s'arrange pour citer surtout Spengler. Spengler qui, le déclin de l'Occident, dédicace à l'armée du troisième, pas du troisième, mais du Reich, c'est-à-dire c'était la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est assez très provocateur. au cœur de l'école de Francfort, de citer d'abord Spengler. Et puis il se rattrape in extremis en citant Daniel Cohn-Bendit. C'est très intéressant. Et il finit son discours en disant je vais citer Daniel Cohn-Bendit, deux points, hélas, en avant. Très intéressant. Très intéressant. Hélas, c'est l'élégie, tout est foutu, on vit sur un tas de ruines, et là, c'est quelque chose d'adornien, éventuellement, on ne peut plus faire de poèmes après Auschwitz, bon, tout ça. Hélas, en avant. En avant, c'est le geste de Cohn-Bendit, c'est une citation de 1968. Très bien. Maintenant, où est-ce qu'on va? Voilà. Donc, la question que je pose à Godard, et j'aime sa liberté, j'aime sa vitesse, j'aime comment il passe de « hélas » à « en avant », très bien. Maintenant, je lui pose sur des exemples plus précis, où allez-vous ?
Pour comprendre peut-être « hélas » en avant, replaçons Jean-Luc Godard dans son historicité. Le Godard d'entre 9 et 15 ans, celui qui vit pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui n'aura de cesse de réfléchir à l'enfant qu'il était à l'époque et à ce moment de l'histoire, évidemment. Et puis le « en avant » qui renvoie à Cohn-Bendit, et vous insistez dans le livre sur le fait qu'il est impossible de comprendre Jean-Luc Godard si on ne sait pas, et c'est très difficile de le savoir, dites-vous, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de travaux là-dessus, ce qu'est ce mouvement de maoïsme en France ou en Europe, dans ces années 60, 70, début 70, dans lequel Jean-Luc Godard est impliqué et qui seront... ce moment est déterminant pour lui, c'est pas...
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une pelote de fil très très compliquée. Je peux dire, moi j'ai pris par exemple, j'étais bien obligé de me retrouver en face du problème. Comme vous le savez, Godard a été accusé d'antisémitisme par les uns et extrêmement défendu de ça par les autres. C'est pas du tout comme ça, moi, que je pose le problème. Mais je me suis par exemple attaché, vous savez, dans les histoires du cinéma, il y a une photo du petit enfant juif de Varsovie qui lève les bras là, avec sa casquette très, très connue de la rafle de 1941, je crois. Et la photo de Jean-Luc Godard dans le même film est traitée exactement de la même façon. Ces deux enfants sont absolument contemporains. Donc Jean-Luc Godard, lui, en Suisse, tranquille, jouant au football, il était le contemporain de cet enfant juif et il a le sentiment d'avoir été le contemporain de cet enfant juif. Et donc, il y a beaucoup de traces dans ses écrits, dans ses films, d'une sorte d'identification à cet enfant juif ou aux juifs en général, mais à cet enfant juif en particulier. Et ce que j'essaie d'analyser, alors ça demande une certaine précision, une certaine... comment cette identification... C'est d'ailleurs dans la définition psychanalytique de l'identification. Il y a toujours un moment de rivalité. Donc, Godard qui explique à qui veut l'entendre qu'il est plus juif que les juifs, qu'il en sait plus sur Hitler qu'un autre enfant juif, etc. etc. Donc, une sorte de passage à la rivalité, comme deux frères sont rivaux, par exemple. Et puis, ça vient, dans un troisième temps, à quelque chose de plus violent, de plus... qui tend à l'exclusion, qui tend à oublier, comme il a fait un peu avec Pasolini à toute une époque, oublier, ne pas exclure. Alors, le discours de l'exclusion, en effet, on voit que c'est un trait d'époque. Les maoïstes, ils étaient très forts là-dessus, sur une sorte de violence. Et alors aussi, il faut voir les lettristes, les situationnistes, Godard. C'est-à-dire, il y a un style d'anathème politique typiquement français et typiquement de l'avant-garde française, qu'on trouve déjà chez les surréalistes, dans les polémiques surréalistes, encore plus chez les lettristes, de façon incroyable chez les situationnistes. Et ça va très vite vers la parano, je dirais.
À couteau tiré.
À couteau tiré, oui.
Parce que c'est le titre d'un chapitre.
Ça construit des espèces de raisonnements paranoïaques. Moi je me sens assez loin de ça. Pourtant,
On n'a pas encore parlé des mots, des phrases,
oui,
des bons mots, des belles phrases, qui sont aussi importants que les images, pour Jean-Luc Godard, qui sont inséparables des images, à tel point que ces montages, vous disiez tout à l'heure, le genre lettre A est un genre godardien, mais je dirais encore plus le genre fax A, parce que dans fax A, il a pour habitude, alors que le fax n'est pratiquement plus utilisé, d'envoyer encore des fax qui sont des collages, des montages d'images et de mots à des correspondants.
Oui. Cette technique, je l'aime beaucoup, parce que Godard a une... c'est un grand penseur de la technique. Donc, de ce point de vue-là, très très fort. C'est-à-dire qu'il mélange des techniques de plusieurs époques. Donc, le fait d'utiliser le fax est d'une grande pertinence critique.
Le fax et la caméra 3D stylo des espions.
Quoi. Voilà, il utilise des techniques que je dirais anachroniques entre elles. Donc ça, c'est remarquable. Maintenant, vous m'avez posé une question sur ces formules. Alors, là aussi, c'est un des objets de ce livre, et notamment tout un chapitre dédié à sa relation avec Pasolini, et à la poésie et à la théorie poétique du romantisme allemand.
Et à son lyrisme.
Et à son lyrisme. La question de Godard poète. Il y a un photogramme que je reproduis dans le livre, c'est « Poète, je suis ». Godard est un poète. Godard, c'est clair, c'est un poète. Alors, c'est un poète à sa façon. Ce n'est pas un poète à la façon de Pasolini, qui a écrit des centaines de poésies.
Un vrai poète.
Non, oui, Godard, il prend une définition du Larousse, puis il la met en vers, tout simplement. Il fait des césures, c'est une façon de diviser, justement. Et puis,
des retours à la ligne, et il enlève la ponctuation, il enlève les capitales.
Exactement. Donc, c'est un poète, à mi-chemin. Et au fond, son autorité même est faite d'hésitation. Et je mets le mot hésitation vraiment au pluriel. Une des hésitations, c'est de savoir s'il est un poète qui crée des formules. Mais la formule, ça va jusqu'au slogan et ça va presque à la propagande et à la pub. Donc, il crée des formules que tout le monde maintenant connaît. Il y a beaucoup de gens, tout le monde sait, ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Mais les gens qui connaissent cette phrase, souvent, n'ont jamais vu un film de Godard. Donc, il a marqué les esprits culturellement avec un certain nombre de formules. Et en même temps, ces formules, justement, c'est comme le montage divisé en deux ou divisé en plusieurs. Quelquefois, elles ont un côté complètement refermé sur elles-mêmes et purement agressive éventuellement, purement, conçu pour renvoyer l'adversaire au tennis au fond du court. Voilà. Et j'ai essayé de synthétiser ça en disant, oui, c'est un poète, et c'est un poète au sens de... Vous savez, quand on dit, par exemple, en français, « Je crains que tu ne me détestes ». Donc, on pourrait se dire, attends, il suffit de dire « je crains que tu me détestes ». Et on ajoute ce petit « ne » là, « je crains que tu ne me détestes ». On appelle ça le « ne » explétif, qui n'ajoute pas de négation. Hein. Il ne sert pas à la négation. Et pourtant, c'est une marque de négation. Voilà, Godard, c'est ça. Il rajoute des espèces de marqueurs dont on ne sait plus à un moment donné si c'est oui ou si c'est non. Ça, c'est une... Alors, il a cette force d'un côté incroyable de trancher, d'exclure, de faire violence. Tout le monde dit, c'est un discours classique, hein, qu'il est un provocateur, etc., etc. En même temps, moi, j'ai essayé de déceler là-dedans une immense inquiétude et une immense hésitation.
Deux résistances, un dialogue que vous citez avec Marguerite Duras qui le perce,
oui.
Et puis une détestation que vous notez pour Foucault, l'hypothèse étant à cause de ce que Foucault dit de l'auteur dans ce fameux entretien de Michel Foucault, et Godard essayant de retrouver l'autorité de l'auteur en passant par ses chemins à lui.
C'est un moment, d'ailleurs, cette marque de détestation, il l'exprime aussi dans une phrase où il dit la même chose sur Pasolini. Et là, il accuse Pasolini de, grosso modo, d'être un intello, quoi, de faire tous ces textes théoriques sur le cinéma de poésie à partir des formalistes russes, Shklovsky, etc. Il dit tout ça ne sert à rien. Et en fait, là, ce que je remarque, parce que j'ai travaillé en amont, avant ce travail sur Godard, j'ai fait un livre sur André Malraux et sur les procédures d'autorité d'André Malraux, qui sont très intéressantes parce que tout ça part de prémices magnifiques, notamment liées à Walter Benjamin, et puis ça va vers une sorte de discours oraculaire du fait que le grand écrivain, il peut juste dire « je peux me passer de Platon, Kant, Hegel, Marx et tout ça, je peux me passer des philosophes, il suffit que je dise et c'est la vérité ». Et voilà, Godard est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il il est très très admiratif de beaucoup d'écrivains et en même temps il vous dit qu'il n'en a pas besoin, quoi. Voilà, c'est là encore, comment est-ce qu'on construit son autorité?
Merci beaucoup Georges Duberman. Je rappelle le titre de ce très beau livre sur Jean-Luc Godard, passé cité par JLG, il paraît aux éditions de Minuit. J'en profite pour signaler un livre très personnel d'un journaliste qui a décidé de quitter Libération pour ne pas avoir à écrire la nécrologie de Jean-Luc Godard. C'est Olivier Séguré, le livre paraît Godard vif chez G3J éditeur. On trouve toutes ces références sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture où vous pouvez également télécharger, podcaster l'émission. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Anaï Morales, à la technique Jean-Guilain Meige, à la réalisation Ghislaine David. On retrouve Jean Deloisy dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.
Histoire du cinéma, chapitre 1A. Histoire du cinéma, avec un S. Histoire du cinéma, avec un S. Toutes les histoires qu'il y aurait, qu'il y aura ou qu'il y aurait, qu'il y a eu, qu'il y a eu.
Du moins n'avait pas changé. Vous avez toujours les mêmes yeux absents, le même sourire, le même rire tout à coup, la même façon d'étendre le bras quand vous regardez quelque chose, un enfant, un proche, de ramener lentement la main vers le creux de votre épaule. Vous portez aussi le même parfum. Souvenez-vous, c'était dans le jardin de Frédéric. Teniez un peu de biais contre une balustrade de pierre sur laquelle votre main était posée, le bras demi étendu. Vous regardiez vers l'allée centrale. Je me suis avancé vers vous. Je me suis arrêté à une certaine distance et je vous ai regardé. Vous étiez tourné vers moi maintenant. Vous ne paraissiez pas me voir. En guise de réponse, vous êtes contenté de sourire.
Alors, une
Alors, entendez mes plaintes. Je ne peux plus supporter ce rôle. Je ne peux plus supporter ce silence, ces murs, ces chuchotements où vous m'enfermez.
Parlez plus bas, je vous en supplie.
Ces chuchotements, pire que le silence où vous m'enfermez. Ces journées, pire que la mort, ici, côte à côte, vous êtes... ces chuchotements, bien que le silence vous enferme, ces journées bien.